Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
La lecture d'un roman jette sur la vie une lumière. C'est Louis Aragon qui a écrit ça, cet extrait de Blanche ou l'oubli. Il n'y a pas de doute, vous êtes bien sur Canal M, vous écoutez bien l'émission À livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, avec Gérard Saint-Denis, nous allons aborder toutes sortes de sujets, mais y compris celui-ci très important. Il y a toutes sortes de moyens pour aller se chercher des livres audio. Nous en parlons avec Gérard Saint-Denis dans quelques minutes. Je reçois Marina Orsini qui est en route, là, elle est en chemin, elle n'est pas encore physiquement près de nous, mais c'est une question de secondes ou de minutes. Il y aura aussi à cette émission le bénévole de la semaine. Cette semaine, c'est Luc Mercure qui aborde pour nous un livre d'Emmanuel Carrère qui s'intitule « Le Royaume ». Je vous présenterai aussi Abla Faroud et son livre « Splendide solitude ». Abla Faroud est une auteure qui sera avec nous la semaine prochaine. C'est un peu la bande-annonce de cette émission. On parlera de Nelly Gantien et de poésie. C'est rare qu'on évoque la poésie à cette émission-là et c'est dommage parce que ça existe aussi, la poésie en audio. Et puis nous finirons évidemment par quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérard, comment allez-vous?
Bonjour madame, c'est le froid qui vous amène? J'écoutais parler de poésie avec Nelly Gantien.
Oui.
C'est tellement merveilleux. J'ai hâte la semaine prochaine de vous entendre.
Ah, ben c'est
je vous écoute, madame.
Ça, c'est très gentil. Mais remarquez, Nelly Gantien, c'est cette semaine hein, que je vais
bon,
en parler.
Oui,
oui.
Oh.
C'est Abla Faroud dont je vais parler aujourd'hui et que je vais recevoir la semaine prochaine, l'auteur. Si tout va bien, comme je le dis toujours, parce que vous savez, on ne sait jamais dans la vie. Cher Gérard, c'est vous qui m'avez proposé, laissez-moi peut-être présenter un petit peu la chose. Il y a, chez les non-voyants, je dirais deux types de lecteurs. Il y a des gens qui sont peut-être pas très branchés, comme on dit, et il y en a d'autres qui le sont beaucoup. Et pour cela, eh bien, il existe toutes sortes de façons d'aller chercher des livres, autrement peut-être que par le SQLA ici, et du coup peut-être avoir accès à des livres un peu plus récents. Et vous m'avez dit, Gérard, ça fait plusieurs fois que vous m'en parlez, il faut qu'on aborde cela à l'émission. Alors parlons-en, Gérard. Qu'aviez-vous à nous dire?
Effectivement, moi, je vais vous dire que c'est il y a trois ans que j'ai fait une recherche pour la magnétothèque. Dans ce temps-là, ça s'appelait
ouais.
La magnétothèque.
Ouais.
Je suis allé en France et en Suisse et j'ai découvert qu'il y avait des bibliothèques sonores pour les aveugles et les malvoyants de façon et qui fonctionnaient très, très bien, qui nous offraient une multitude de livres. Encore faut-il être capable de les avoir.
Mm-hmm.
C'est là le problème. Sauf que dès que vous parliez de personnes, nécessairement, il faut être sur un ordinateur.
Oui, oui.
Parce que ça se fait par téléchargement. Mais c'est très simple, hein, je veux dire,
oui.
C'est une simplicité. Sauf que je comprends très bien que les gens qui n'ont pas d'ordinateur doivent continuer à recevoir des livres sur des CD.
Oui.
Et ça me rappelle que quand j'ai commencé, moi, j'étais sur des cassettes.
Des cassettes, hein,
oui. Oui, qui brisaient.
Ah, qu'il fallait remonter,
cassettes. Pour un livre,
oh,
il fallait les remonter pour la prochaine personne.
Oh,
et aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on a accès, grâce à l'Internet, à un paquet de volumes. Il existe trois grandes bibliothèques francophones, si on veut.
Oui.
Je ne parle pas des anglophones, parce qu'eux autres aussi, eux autres, ils ont un avantage sur nous autres, ils en ont encore beaucoup plus.
Bon.
Pour toutes sortes de raisons.
On va rester dans le franco, alors.
On va rester dans le franco, oui. Il y a l'association Valentin-Ahu.
Attendez, parce que là, vous le dites très, très vite.
C'est AVH. Vous l'avez mis sur votre site.
C'est ça, Association Valentin.
Donc, Valentin A-U.
Et ça s'écrit H-A-U-Y.
C'est ça.
Je voudrais tout de suite préciser, Gérard, parce que là, les gens vont... Ça leur fait peut-être peur qu'on leur assène comme ça des noms et des sites. Tous ces sites-là vont se retrouver, évidemment, sur le site de Vues et Voix et canalem.org, dans l'infolettre aussi. Vraiment, on va essayer de pouvoir diffuser toutes ces informations-là.
Exactement.
Le plus possible. Comptez sur nous.
Alors, donc, oui, parce que c'est important d'avoir c'est simplement le contact. Une fois
bien
que vous allez
sûr,
avoir le contact.
Bien sûr.
Et l'autre chose, je dois dire aux gens, c'est pas non plus... Ça, il y a une chose, quand même, faut être... Ça prend des gens qui sont sur ordinateur.
Oui.
Parce que on ne peut fonctionner que par téléchargement.
Ah, c'est ça. Oui, d'accord.
Oui. Bon. Marquez bien qu'au début, il y a 4-5 ans, on nous envoyait des livres. C'est compliqué, de façon internationale, ça posait des problèmes.
Non, mais
et
ça...
là, c'est par téléchargement.
D'accord. Non, là, c'est clair que de toute façon, Vues et Voix n'est pas à la veille de disparaître et que nous, on va continuer, les 350 bénévoles, on va continuer à produire des disques, des CD pour les gens qui ne sont peut-être pas aussi avancés que vous. Mais pour ceux qui le sont, donc il y a ces sites-là. Est-ce qu'ils sont gratuits?
Oui, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit.
Même les nouveautés?
Oui, même les nouveautés. C'est gratuit et je veux dire, ça peut être aussi, il faut faire attention, il y a encore un grand nombre de livres qui sont lus par des lecteurs ou des lectrices bénévoles. Là. Pas parce qu'ils sont envoyés en téléchargement, qu'ils sont tous en synthèse vocale.
C'est
pas le cas, là.
Ça veut dire que dès qu'ils sortent...
Je vais vous dire là-dessus. Je veux juste terminer. Il y a trois bibliothèques. Je veux juste les présenter.
D'accord.
Il y a la VH,
oui,
que je vous ai parlé.
Oui.
C'est une très grande... qui font une très grande production aussi, non seulement de livres sonores, mais si, moi, je les ai visités de braille conventionnel et de braille numérique et de format PDF.
Okay.
Et texte Daisy. Donc, ils font aussi des milliers de livres en gros caractères.
D'accord.
Ce sont des grands producteurs pour aider vraiment. C'est une très grosse organisation. Imaginez qu'ils sont plus de 160 employés.
Oh,
ça vous
Dieu,
donne
bon.
Une idée
d'accord,
de grosseur. Okay?
Et ce n'est pas aussi, que de la voix de synthèse. Ce n'est pas
oui,
que de la
non,
voix de synthèse.
Il y en a. Bon, eux autres, ils font les deux. Ils font les deux.
D'accord.
Ils ont la voix de synthèse, puis ils ont beaucoup de bénévoles.
D'accord.
Le BNFA, la bibliothèque numérique francophone accessible.
Oui.
C'est un regroupement qui s'est fait il y a un an et demi, deux ans, et qui regroupe 3-4 organisations que je ne vous nommerai pas nécessairement,
ce
n'est pas important, sauf qu'ils produisent quand même, eux autres, ils produisent énormément de livres, mais ils en produisent 90% en synthèse vocale.
OK, d'accord.
Bon, et la troisième organisation, c'est la Bibliothèque sonore romande, c'est
okay.
en Suisse,
oui.
et on peut, eux autres produisent que des livres lus par des personnes.
D'accord.
Bon, mais ça fait une masse de livres. Ça
je comprends.
Ça fait entre 7 et 8 000 volumes francophones accessibles par année.
Oui, il faut en parler, effectivement. Mais quand vous parlez, Gérard, de nouveautés, puis de livres... Par exemple, je ne sais pas, moi, un livre comme Soumission de Houellebecq...
C'est ça, c'est pour vous dire que je l'ai terminé hier.
Vous l'avez déjà?
Ça fait longtemps qu'il est lu, madame.
OK, non, d'accord.
Je fais des farces. Mais je vais vous donner un exemple.
Mais oui.
Un livre qui est sorti récemment, qui est sorti le 22 janvier
oui.
de cette année,
oui.
le 30, je l'avais dans mon ordinateur.
Voilà.
Bon, et c'est ça.
Oui, c'est
maintenant,
ça.
C'est pas un livre que vous faites de lecture sonore, c'est beaucoup plus agréable, on en convient, mais faut comprendre un autre volet de ça. Il y a des milliers d'ouvrages qui sont pas des romans nécessairement traditionnels comme on connaît, mais qui sont, ça peut être ce sont des livres, des documentaires, ce sont
ouais.
des manuels, etc., et qu'on veut avoir, qu'on veut toucher tout de suite.
Bien
ce
sûr.
Qui va arriver, c'est que ces livres-là, ce sont des livres qui sont, d'actualité.
Oui, je comprends. On en parlait hors onde quand on préparait l'émission, et c'était un très bel exemple, par exemple, le livre d'Alain Saunier, qui est l'ancien directeur.
Là, oui. Dans un an et demi, là,
ben oui.
C'est plus intéressant.
Mais non, je comprends, c'est maintenant.
du tout. Et j'ai lu, ça fait longtemps que j'ai lu les aventures de l'ex
du président de la France.
Bon, mais ça, c'est bon là, mais ben dans oui. un an et demi, il va ouais. peut-être en avoir un autre.
C'est vrai. C'est... non, mais bon, il sera peut-être plus ça. Là.
Moi, ouais. je te dis que c'est ce plaisir qu'on ouais. avait pour ceux qui voyaient avant, là. Ouais. Et c'est le plaisir qu'on avait quand on allait en librairie, bon. On prenait un livre d'actualité, un livre d'actualité, on en prenait un bon roman. C'est bien sûr que Gallo vient de sortir un ouvrage fantastique sur François Ier, puis on connaît Gallo. Ça, je suis pas pressé de le lire. Je veux dire, je peux le lire en 6 mois. Ça fait longtemps qu'il est mort, François Ier. Il n'aura pas changé.
Non, bon, mais Gérard.
Ça, c'est ça que je vais dire aux gens. Donc, il y a une chose qui est facile. Si vos lecteurs veulent s'abonner à AVH,
okay,
ils doivent envoyer, ils ont une attestation de vision qui leur est remise par leur optométriste ou leur médecin. Une attestation de vision, c'est une feuille 8,5 par 11.
Mm-hmm.
On la scanne.
OK.
Et on l'envoie avec la demande.
OK, simplement
on
ça.
On n'a pas de lettre envoyée, rien. On fait ça par courriel, là.
OK.
Ça ne coûte pas un sou, là.
Non, je comprends.
Et là, 2 semaines après, on va communiquer avec vous. On va vous donner un numéro.
OK.
23 32 43.
Oui.
Boum. Et vous devenez abonné. Et là, vous allez recevoir la lettre mensuelle. Les deux
avec,
lettres mensuelles.
Avec toutes les nouveautés.
Avec toutes les nouveautés, d'accord. etc. Vous cliquez, vous avez droit, dans le code, vous avez le droit à 20 livres par 14 jours.
Ah, mon Dieu!
Si vous lisez ça, là, okay. vous me battez.
Mon cher Gérard, on a déjà dépassé le 8 minutes. C'est assez. Oui, je vous en ai déjà donné une de plus et j'ai quand même une invitée qui vient d'arriver. D'ailleurs, Marina Orsini, faut que je lui laisse aussi un petit peu de place. Je peux pas. Écoutez, Gérard, ce que je
voulez-vous
propose.
Voulez-vous me rendre service avant
oui.
de terminer?
Non.
Donnez un bec sur la joue à madame que votre invitée de ma part.
D'accord, monsieur Gérard Saint-Denis. Et puis moi, je vais vous en rendre un autre service. Je vais vous invité dans quelques oui. émissions pour qu'on prolonge cette discussion.
D'accord, ça me fera plaisir.
D'accord, et ne
et
vous inquiétez
salut
pas.
À tout le monde
voilà.
Et bonne lecture.
Et toutes les informations qui ont été dites seront, je vous le promets, retransmises. D'accord?
Au plaisir.
Bonne journée, Gérard.
Bye bye.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et on n'est pas peu fiers de l'avoir, notre invitée spéciale, Marina Orsini, bonjour.
Bonjour, c'est un privilège d'être là. Quelle belle invitation, vraiment.
Vous avez aimé votre visite, hein? La visite qu'on fait toujours
beaucoup.
Faire.
Beaucoup! Hein? Quel monde, quel univers! Ouais. On parle trop peu de vous. Je
oui,
trouve.
On est tous d'accord.
Ah oui, mais on va en parler plus.
On va en parler plus. Ben, c'est très gentil à vous.
Oui.
Marina, on va parler de lecture, on va parler d'un livre avant. Vous êtes une femme hyper occupée. On a beaucoup de mal à vous attraper. Moi, une chance, je vous ai croisé dans l'ascenseur.
Puis... c'est vrai.
C'est vrai. Hein? Et du coup, je lui ai dit, Marina, il faut que vous veniez à l'émission. Et elle m'a tout de suite dit oui, ça a été formidable.
Mais il y a longtemps qu'on se connaît aussi.
Oui, c'est sûr.
On s'est souvent croisés.
Mais quand même, tu sais, je me suis dit, bon, mais où trouvez-vous le temps de lire? Est-ce que vous avez un rituel de lecture?
C'est par vague, je dirais, parce que dans mon travail, je lis beaucoup. Hein, dans notre rôle, dans nos métiers de comédien, on lit beaucoup des textes, des histoires. Puis maintenant, depuis 9 ans, mon métier à la radio, c'est sûr que ça fait que je lis beaucoup parce que je reçois, moi aussi, des auteurs sur toutes sortes de sujets. Hein, même préparer un dossier, on lit des documents. Donc, la lecture, ça fait quand même partie de ma vie. Mais je dirais que le soir, en me couchant, c'est comme un besoin, c'est une envie. Que j'en ai 5-6 sur ma petite table de chevet. Il y en a que j'ai commencé, d'autres pas encore. Mais il faut le trouver, le temps. Puis je pense que c'est le temps qui nous appelle, dans le sens où je veux lire tel livre, j'ai besoin de lire tel livre.
Quel genre de littérature aimez-vous, Marina Orsini?
Bien, moi, je dirais qu'à la base, j'ai toujours été attirée par les biographies, autobiographies. Et surtout, je suis pas une fille à romans beaucoup. Je commence...
Non?
À plonger dans les romans, je dirais, ces dernières années. Mais c'est drôle parce que je tenais à vous dire ça parce que ça a été vraiment très, très présent dans ma vie. Ma mère est décédée, ça fait un peu plus de 18 mois. Et on dirait que quand ma mère est décédée, j'avais besoin de lire des choses qui parlaient de la mère, de la maman. Et je suis tombée sur des livres absolument extraordinaires. dont le livre de Robert Lalonde, c'est le cœur qui meurt
oui,
en dernier.
Oui, oui.
Francine Ruel, Ma mère est un flamant rose.
C'est fou parce que ce sont des livres dont on a parlé en plus très récemment. France Castel est venue nous présenter le livre de Francine Ruel.
Ah oui.
Francine qui va venir à l'émission d'ici quelques semaines.
Ah, c'est tellement beau.
Et puis Robert Lalonde, il est venu lui-même pour nous en parler de ce livre-là.
Et le livre de, je ne vais pas me tromper, Louise Dupré, l'album Multicolore.
Oui. Oui, oui.
Alors, je me suis tapé ces trois livres-là là, à l'intérieur de quelques mois à peine. J'avais besoin de parler de ma mère, d'entendre parler de la mère. Et ce sont des récits, fait que c'est vraiment des expériences très personnelles. Donc, c'est par vague.
Et là, parmi la vague, en ce moment, il y a un livre qui vous a beaucoup marqué.
Grosse vague.
Hein?
Pour l'auteur.
Oui. Alors, c'est vous qui nous le présentez, le titre et l'auteur, Marina.
Charlotte, donc aux éditions Gallimard, de David Fuenquinos,
On dit Fuenquinos.
Fuenquinos.
Oui, on prononce ça, Fuenquinos.
Oh, quel coup de cœur. Suggestion dans la presse que j'ai lue pendant un week-end, là, il y a à peine deux semaines. Et juste en lisant l'endo, la description, qu'il a gagné le prix Goncourt avec ça.
Renaudot. Et il a gagné le Goncourt des lycéens.
OK.
Ce qui n'est pas peu dire.
Alors, quand même. Ouais, quand et juste même. L'histoire, la thématique. Et c'est en partie, oui, c'est un roman, mais c'est un récit aussi. Parce que c'est son expérience. Oui, son expérience à lui, David Fuenquinos, qui est fascinante. Et l'écriture, c'est une dentelle.
Oui, hein.
Qui nous porte, là, c'est...
Oui. Alors là, ça fait beaucoup de choses. D'abord, qui est cette Charlotte?
Bien, Charlotte, c'est ça, c'est une artiste peintre qui a vécu, c'est une histoire vraie, Charlotte Salomon, qui est une artiste peintre qui est morte à l'âge de 26 ans, donc qui a grandi à Berlin. Donc, Deuxième
Guerre
mondiale.
Mais là, c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Juste avant que la chasse aux Juifs commence.
Exactement. Ouais. Et jeune fille particulière... Ouais. Qui vient d'une lignée de femmes avec des destins très particuliers.
Oui. Ouais.
Et qui, on ne le sait pas au départ, elle non plus d'ailleurs, parce que ça part de l'enfance, qui a perdu sa maman très jeune et qui est une artiste dans l'âme et qui devient donc une peintre et qui est décédée à l'âge de 26 ans lorsqu'elle était enceinte.
Mm-hmm.
Donc, quel destin tragique.
Elle est décédée dans les camps.
Elle est décédée dans les camps, exactement.
C'est ça. Et Fuenquinos, il a voulu... parce que je ne sais plus exactement comment est-ce qu'il a rencontré l'univers de cette femme-là. Je pense que c'est simplement par une exposition à un moment donné.
Mais lui, c'est l'obsession de l'Allemagne aussi.
Voilà,
je pense
c'est ça,
que c'est quelqu'un qui adore cette période-là.
Exactement.
Aussi.
Et là, il voulait trouver un moyen, un biais pour aller au bout de cette obsession-là. Mm. Mais il est devenu complètement amoureux de cette femme-là. Et je trouve que ça, parallèlement à l'histoire de Charlotte, parallèlement à ce destin tragique, enfin, je veux dire, c'est une fille, à un moment donné, vous en souvenez peut-être dans le bouquin, mais lorsque les portes... On ferme toutes les portes aux Juifs, hein, à un moment donné, dans les années 30, tout se ferme. Et elle rêve d'une chose, c'est de faire l'école des Beaux-Arts.
Exactement.
Et elle y parvient.
Elle y parvient.
Ce qui est assez extraordinaire.
Oui, elle a été choisie par son talent.
Oui, c'est ça.
C'est le talent qui a été plus fort que tout. Et c'est un de ses profs qui vraiment trouve un moyen de la garder à l'école.
Oui.
Et là, c'est sûr que moi, je ne connaissais pas cet artiste peintre-là. Mm-hmm. Je suis allée sur la toile, effectivement. Ouais. Je suis allée sur le web faire une recherche. Et il y a plusieurs capsules vidéo où on voit David Fuenquinos en quête, où il retrace.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, il nous guide à travers toute cette histoire-là, ces atrocités-là, ces drames-là. Et parallèlement à ça, il y a une histoire d'amour incroyable. Mais une histoire d'amour qu'elle vit comme un peu en solitaire, on pourrait presque dire.
Moi, je ne suis pas arrivée là. Alors ça, il faut nous en parler, parce que moi, je suis arrivée à la moitié du bouquin, voyez-vous ici. Là, alors que vous l'avez terminé.
Ah oui.
Alors, parlez-moi un peu de cette histoire d'amour.
Lui, c'est que, sa mère meurt, elle est très jeune. Son père, éventuellement, je fais des grandes lignes, là, refait sa vie. Fait sa vie avec une cantatrice, une chanteuse d'opéra.
Paula,
exactement. Et à travers elle, la relation entre elle et Paula, d'ailleurs, c'est touchant, c'est troublant par moment. À un moment donné, Paula fait appel à un professeur de chant. Alors lui, il est professeur de chant. Il s'appelle, c'est Albert, si je me trompe
Albert
pas.
Albert ou Alfred?
Alfred, merci.
C'est Alfred.
C'est bon, Clotilde, oui. Alfred, qui rentre donc dans la vie de cette cantatrice-là, Paola, mais qui, en parallèle, veut pas, Charlotte fait sa vie avec son père et sa belle-mère. Ouais. Donc, elle voit cet homme-là venir et partir. Un homme assez particulier, d'ailleurs, avec une personnalité qui est difficile à saisir et qui n'est pas très gentil avec elle, mais par des petits détails, des petits morceaux d'attention qu'il lui porte, elle tombe follement, malgré elle, amoureuse de cet homme-là.
Oui, c'est une passion.
Oui, c'est une grande passion. Et donc, va et vient dans sa vie. Et à un moment donné, c'est elle qui est complètement et littéralement obsédée par cet homme-là dans sa vie. Et toutes ses peintures, d'ailleurs, son œuvre qui est principale, je dirais, c'est La vie ou le théâtre.
Oui.
Où là, parce que cette fille-là peignait la réalité du quotidien qu'elle vivait aussi. Ouais. Hein, donc, en temps de guerre ou... toutes les difficultés qu'on connues, que connu cette époque-là. Et finalement, c'est ce qu'elle a légué, hein. C'est son histoire à elle à travers ces peintures-là. Mm. Et vers la fin, donc, quand on sait qu'elle est enceinte et ben, qu'elle va mourir, elle a mis toutes ses toiles dans un genre de valise et elle est allée porter ça à quelqu'un en disant « Ceci est toute ma vie ». Alors, c'est son legs, hein, c'est vraiment...
C'est terriblement émouvant. Et alors, l'écriture. Je voudrais, avant qu'on parle de l'écriture, il nous reste quelques minutes, que vous preniez le temps pour nous lire un extrait, Marina, s'il vous plaît.
Mais là, l'extrait, c'est plutôt, je dirais, David Fonkinos lui-même qui retourne sur des lieux, parce que ça arrive souvent dans le livre où on est vraiment dans l'histoire, et oups, il y a comme des apartés de lui en temps réel, si on veut.
Exactement.
Hein, qui nous décrit les lieux. Alors, voici en page 99, il nous dit... Aujourd'hui, les hommes de la Réunion sont figés par des photos. Ils sont immortels, ou plutôt interdits à l'oubli. La villa est devenue un lieu de mémoire. Je l'ai visitée par un soleil radieux en juillet 2004. On peut traverser l'horreur. La longue table de la Réunion est effrayante, comme si les objets avaient participé au crime. L'endroit est chargé à perpétuité de terreur. C'est donc ça, avoir froid dans le dos. Je n'avais jamais compris cette expression auparavant, la manifestation physique d'une pointe glaciale qui parcourt la colonne vertébrale. Alors lui, il est retourné sur les lieux, hein, c'est sa quête en même temps
de cette histoire-là. Moi, j'avais choisi un extrait qui était page 97, qui est la page juste avant.
Okay. Non, mais... Et c'était quoi?
C'était quand elle rentre, son père l'attend dans le salon. Est-il soulagé ou furieux? Oh, sûrement un mélange des deux. Au bout d'un moment, Albert se met à crier. « Où étais-tu? Penses-tu au moins à nous? Notre inquiétude, notre désespoir. » Charlotte baisse la tête. On se souvient dans quelle époque on est. Hein? Mmh. Elle sait que la nuit, tout peut arriver. Si elle se fait contrôler, on peut l'embarquer. On peut la frapper, la torturer, la violer, la tuer. Elle s'excuse, mais ne parvient pas à pleurer. Elle se contente de balbutier qu'elle rêvait. C'est le premier alibi qui lui vient. Pour là s'approche, pour apaiser la situation. « Ne nous fais plus jamais cela, » dit-elle. « Si tu veux rêver, viens rêver ici. »
Puis là, c'est parce que là, Charlotte est en liaison avec Alfred.
C'est ça.
Elle revient de une de ces rencontres-là. Là. Ah non, c'est fabuleux.
Alors,
c'est
l'écriture.
Douloureux.
L'écriture, Marina.
Ah oui, c'est de la
dentelle. Parce qu'il a travaillé là-dessus pendant 10 ans, hein, Fonkinos.
Ah,
c'était vraiment une démarche incroyable. Et à chaque fois, il n'aimait jamais la façon... de voir les... Non, ça ne fonctionnait pas dans son écriture.
Oui, il paraît qu'il a recommencé quelques fois.
Ah, il a recommencé je ne sais pas combien de fois, jusqu'au moment où il s'est dit... il dit « J'ai dû le recommencer 10 fois et il semble que la dernière était la bonne, la décision de l'écrire à la ligne. Donc, c'est une phrase à la ligne. Hein. » Et il n'y a jamais une phrase sur 2 lignes, vous avez remarqué.
Non, mais c'est ça aussi au début, physiquement, là, sur le papier dans le livre, je me dis « Ah non, attends, si tu écris comme un poème... »
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas ça!
Non, c'est pas un poème. C'est parce que quand on lit surtout à voix haute, finalement, là, les gens qui nous ont entendus lire des extraits ne se rendent pas compte que c'est une phrase à la ligne.
Exact.
Sauf que quand on le lit à voix basse, honnêtement, et qu'on l'a sous les yeux, dans chaque mot, je dirais que chaque mot est punché, c'est même pas chaque phrase.
C'est vrai.
Et dans une autre entrevue, il a dit qu'il y avait des fois où il avait tellement de mal à en trouver une seule phrase. Et lorsqu'il avait fini par l'écrire à la fin de la journée, par exemple, qu'il lui arrivait parfois d'être plusieurs journées sans en écrire une autre, tellement celle qu'il venait d'écrire était chargée d'émotions et de tout ce qu'il voulait faire passer.
Mais c'est vrai, parce que chaque phrase veut dire quelque
est
chose.
Importante.
On ne remplit pas le temps et l'espace, là, on ne remplit pas la feuille.
Non,
là.
Non,
pas
c'est
du
ça.
Tout. Ça porte, c'est porté par tellement d'images, de mots, de sens. On sent les lieux, on voit les regards.
Ouais.
On est dans un film.
Et, ouais.
C'est
moi,
ça,
j'y ai pensé,
hein?
D'ailleurs, et je ne sais pas s'ils vont en faire quelque chose.
Ben, ils ont fait La Délicatesse.
Oui,
moi, j'ai pas vu
ils
le
ont
film
fait
avec
La Délicatesse,
Audrey Toutou.
Dont je vais parler, d'ailleurs, tout de suite après. Je sais que vous allez partir assez vite, mais c'est ça, je vais en parler de La Délicatesse, parce que je trouve ça important lorsqu'on côtoie pendant un petit moment avec mon invité, un auteur, de pouvoir aller un petit peu plus loin et
gros
de rappeler...
Gros coup de cœur, en tout cas, pour
Charlotte.
Moi. Charlotte de David Foinquinos, c'est un lire à lire et un livre à lire, c'est-à-dire chez Gallimard, et même à relire, parce que c'est un pur plaisir, vraiment.
Et c'était présenté aujourd'hui pour nous par Marina Orsini, qui est passée par notre studio.
Marina,
que du bonheur.
À vous aussi, que du bonheur, vraiment. Puis merci pour ce beau moment-là.
Merci beaucoup, bonne fin de journée.
Merci.
Chapitre 3, le classique de la semaine.
Alors, pendant que Marina est en train de nous laisser, on vient d'en parler avec elle de La Délicatesse de David Foinquinos. Et j'avais fait la promesse, je lui avais fait à elle comme à vous, de vous reparler de ce livre, La Délicatesse, qui est déjà, d'ores et déjà, un classique. Hein. C'est fou être aussi jeune que M. Foinquinos. Il a quoi, une quarantaine d'années? Et ce livre-là va faire partie, en tout cas très rapidement, des classiques du classique. Bon, c'est sûr que si on pense Balzac, Zola et compagnie, peut-être pas. Mais si on parle classique contemporain. Alors, La Délicatesse, de quoi s'agit-il? On parle d'un couple très heureux, Nathalie, François, ils s'aiment, ils ont la vie devant eux. Mais un jour, la belle mécanique s'enraye parce que François décède brutalement. Alors, du coup, Nathalie devient veuve, une veuve éplorée et devient surtout une espèce de forteresse où les plus grands séducteurs vont se casser les dents, sauf un type qui s'appelle Marcus, qui est un collègue de travail, un type terne, un type maladroit, un type qui est l'antithèse du séducteur. Et sur un simple malentendu, il va obtenir un baiser de cette femme-là. Et tout d'un coup, pour cet outsider de l'amour, eh bien, c'est un signe du destin et il va se lancer à la conquête de la veuve. Mais il va se lancer à sa conquête tout en délicatesse, d'où le nom. Le Figaro, le 2 septembre 2011, avait écrit « Foinquinos a réussi une mission impossible, faire sourire et réfléchir avec un roman sentimental. Ses dialogues, comme les situations, sont savoureux et délicats à lire et à offrir. » C'est exactement ce qu'on vient de se dire avec Marina au sujet de l'écriture de Charlotte. Dans le Figaro aussi, mais cette fois-ci le 18 juin 2011, inutile de résister, cette plume qui s'immisce dans les méandres des cœurs vous touchera avec la justesse d'une flèche de Cupidon. Un tout petit extrait, une citation, impossible est seulement un grand mot utilisé par de petits hommes qui trouvent plus facile de vivre dans le monde qu'ils ont reçu que d'explorer le pouvoir qu'ils ont de le changer. Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion. Impossible n'est pas une déclaration, c'est un défi. Impossible n'est que temporaire. L'impossible est possible, impossible n'est rien. Signé David Foinquinos, extrait de La Délicatesse. Vous écoutez Un livre découvert sur Canal M. C'est Clotilde Seille et ses invités.
Vous écoutez Un livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et je retrouve avec grand plaisir l'ami Luc Mercure. Bonjour Luc.
Bonjour Clotilde.
Comment ça va?
Ça va très bien, c'est toujours un plaisir de venir ici.
Ah ben, moi j'aime ça parce que d'abord, vous êtes un de mes lecteurs entre guillemets préférés. J'aime beaucoup la façon dont vous avez d'aborder la lecture et les livres que vous lisez ici, parce que vous êtes bénévole ici, lecteur et aussi auteur. On a déjà parlé de quelques-uns de vos livres ici même à l'émission. Et aujourd'hui, ce n'est pas un de vos livres que vous venez défendre, mais en tout cas, défendre,
présenter.
C'est un bien grand mot.
Présenter.
Allons-y comme
présenter.
Ça. Je vous laisse d'ailleurs le présenter.
Alors, c'est Le Royaume d'Emmanuel Carrère, et c'était un grand plaisir pour moi de le lire, parce que je connaissais de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion de lire de romans de Carrère. Et on reçoit parfois des témoignages d'usagers du SQLA qui nous disent combien ils sont contents ils apprécient le travail que les bénévoles font, mais pour les bénévoles aussi, c'est vraiment un plaisir ouais, hein, de lire et de découvrir des auteurs. Alors, Carrère, il y a probablement des usagers, des auditeurs qui le connaissent parce qu'il écrit vraiment de très nombreux romans. Certains ont été adaptés à l'écran. On pense à La classe de neige, par exemple, que Claude Miller avait réalisé un film extrêmement troublant. La moustache aussi, qui avec Vincent Lindon et Emmanuel Béard. Non, Emmanuel DeVos, pardon.
Emmanuel DeVos, oui, c'est ça. Là, quand j'entendais parler, je disais non,
DeVos,
c'est pas...
DeVos. Et donc, c'est des romans... Il écrit des romans assez conventionnels, mais il a aussi écrit des livres qui sont... qu'on étiquette de romans, mais qui sont pas des romans conventionnels dans la mesure où il mélange un peu les genres, biographie, essai, récit. Alors, on pense à Limonov, par exemple, qui a gagné le prix Renaudot en 2011, qui est d'ailleurs disponible là, au SQLA, dans lequel Carrère racontait la vie du dissident et de l'homme politique, d'écrivain russe.
C'était Marc Cassivi, je m'excuse de vous interrompre, c'était Marc Cassivi qui était venu nous présenter, je m'en rappelle, et c'était la deuxième émission seulement que j'animais. C'est un souvenir très précis pour moi, ça.
Il racontait à la fois la vie de Limonov, qu'il avait côtoyé de très près pendant quelques semaines pour écrire le livre, mais il parlait aussi de la littérature russe, de l'histoire de l'URSS et de la Russie. Donc, c'est vraiment un mélange des genres. Et c'est ce qu'il fait à nouveau avec Le Royaume, qui est sorti l'automne dernier, qui est consacré principalement au début du christianisme, après la mort de Jésus, mais dans lequel il parle aussi de sa vie, abondamment de sa vie. D'ailleurs, on a souvent reproché à Carrère d'être assez narcissique et de parler beaucoup de lui. Moi, j'avoue que c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé, ce mélange-là. J'ai trouvé qu'il faisait ça de façon très fluide. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais donc, il parle, et le roman est divisé en quatre parties. Et l'une de ces quatre parties-là est consacrée presque exclusivement aux trois années pendant lesquelles il a été croyant. Il y a eu comme une espèce de révélation. Il parle des influences que certaines personnes ont eues dans cette transformation-là, dans cette foi-là. Sa marraine, un de ses amis, il raconte les longues discussions qu'il a eues avec l'un avec l'autre, les images qui l'ont frappé. Et pendant ces trois années-là, il n'a pas simplement cru de façon légère. Il a été presque dévot. Tous les matins, il lisait des passages de la Bible, il les commentait, il a rempli des cahiers complets où il commente des passages des évangiles. Et il a mis ça dans des boîtes parce qu'après trois ans, il a arrêté de croire subitement. On a d'ailleurs un peu l'impression que ça a été une béquille pour traverser une période difficile.
Est-ce qu'il dit pourquoi? Oui. Est-ce qu'il raconte pourquoi est-ce qu'il est devenu croyant et pourquoi est-ce
oui,
qu'il...
Oui, mais ça, je vais laisser
parfait.
Non,
mais c'est pour savoir. D'accord, OK.
Oui, mais comme cette période-là a eu lieu il y a très longtemps dans sa vie, il a maintenant une distance critique par rapport à tout ça. Et je vous lis peut-être un extrait où il raconte un
volontiers.
Petit peu. Alors, il dit, donc on voit tout de suite la distance critique qu'il va avoir prise par rapport à cette période-là de sa vie. « Non, je ne crois pas que Jésus soit ressuscité. Je ne crois pas qu'un homme soit revenu d'entre les morts. Seulement, qu'on puisse le croire et de l'avoir cru moi-même, cela m'intrigue, cela me fascine, cela me trouble, cela me bouleverse. Je ne sais pas quel verbe convient le mieux. J'écris ce livre pour ne pas me figurer que j'en sais plus long, ne le croyant plus, que ceux qui le croient et que moi-même quand je le croyais. J'écris ce livre pour ne pas abonder dans mon sens. »
Ah!
Bon, j'aime beaucoup cette espèce de distance-là. Et il ne dénigre pas, même s'il ne croit plus, il ne dénigre pas les gens qui croient. Et le phénomène de la foi, il garde la même fascination. Et j'avoue que c'est une fascination que j'ai eue aussi. Et puis, j'ai jamais été croyant, mais la foi, le phénomène me fascine tout à fait.
Ouais.
Donc, il parle de sa vie. Et dans l'une de des quatre parties du livre, il en parle abondamment, mais la majeure partie du livre est consacrée donc au début du christianisme et principalement à deux figures, Paul et Luc, qui a été le disciple de Paul. Alors, c'est après la mort de Jésus, il s'intéresse très peu à Jésus de son vivant. Et pourquoi il s'intéresse à ces deux personnages-là? D'abord parce qu'on a beaucoup de documentation sur eux. Paul a écrit beaucoup. Luc a écrit aussi les Actes des Apôtres, le quatrième évangile. Paul a écrit des épîtres. Donc, on a beaucoup de documentation et on a aussi des témoignages du début du christianisme à travers la vie de Paul et de Luc parce que les deux ont été en contact avec les Romains. Paul a été citoyen romain d'ailleurs et les Romains ont écrit sur eux aussi. Donc, le seul historien juif de l'époque, Flavius Joseph, a aussi écrit sur eux. Donc, on a un point de vue différent. Ce qui permet à Emmanuel Carrère de ne pas se contenter comme source d'écriture des textes que ces deux hommes-là ont écrits.
OK.
Donc, ils ont écrit beaucoup et ils ont voyagé beaucoup, ce qui fait aussi que ça leur fait une vie très intéressante. Alors, je vous lis peut-être un autre...
D'accord,
un
s'il
autre
vous critique, plaît.
Un autre extrait. Luc est un Grec, instruit, qu'attire la religion des Juifs. Depuis sa rencontre avec Paul, un rabbin controversé qui fait vivre ses adeptes dans un état de haute exaltation, il est devenu un compagnon de route de ce culte nouveau, variante hellénisée du judaïsme, qu'on n'appelle pas encore le christianisme. Il est, dans sa petite ville de Macédoine, un des piliers du groupe converti par Paul. À l'occasion de la collecte, il se porte volontaire pour l'accompagner à Jérusalem. C'est le grand voyage de sa vie. Paul a mis en garde ses compagnons. La visite à la maison mère risque de n'être pas de tout repos. Mais Luc n'imaginait tout de même pas que cela se passerait aussi mal, que dans la ville sainte des Juifs, son mentor était à ce point détesté. Il l'a vu mis en accusation, non par des rabbins orthodoxes, comme il s'y était préparé, mais par les dirigeants de sa propre secte. Astreint à une épreuve humiliante, dénoncé, quasi lynché, sauvé de justesse et pour finir, emprisonné par les Romains. Donc, Carrère met en scène aussi les différends, les conflits qu'il y a eu, tout ce que les textes évangéliques, évidemment, sous-entendent parfois, mais
sans trop le dire non plus.
Alors, il donne un visage extrêmement humain à tout ça.
Il l'incarne?
Qu'il incarne, c'est extrêmement incarné.
Okay.
Et il fait ça de façon extrêmement libre, fluide. Il raconte des épisodes de la vie de ces deux hommes-là, mais en nous disant, bon, là, ici, là, j'imagine ce qui s'est passé. J'extrapole. Là, c'est le romancier qui parle. Et parfois, il nous raconte plus clairement, non, ça, c'est dans le texte.
Okay.
C'est extrêmement sinueux. À travers ça, il va revenir sur sa vie personnelle. Il nous raconte les problèmes avec sa femme de ménage, par exemple, qu'il a hébergé. Au milieu de tout ça. Okay. Là. Il fait des digressions, mais il revient. Okay. Ça peut en agacer certains, mais moi, j'ai trouvé qu'il faisait ça de façon extrêmement fluide. Et il commente tout ça de ses réflexions. Je ne sais pas si on a le temps pour un autre petit extrait.
Ça dépend. Parce
il n'est pas très long.
Allons-y pour un petit extrait.
Alors, parce que j'aime beaucoup, ça montre un peu le ton qu'il adopte.
Allez-y, ça me fait plaisir.
Maintenant, ce qui fait la réussite d'un film, ce n'est pas la vraisemblance du scénario, mais la force des scènes est sur ce terrain-là, Luc est sans rival. L'auberge bondée, la crèche, le nouveau-né qu'on emmaillote et couche dans une mangeoire, les bergers des collines avoisinantes qui, prévenus par un ange, viennent en procession s'attendrir sur l'enfant. Les rois mages viennent de Matthieu, le bœuf et l'âne sont des ajouts beaucoup plus tardifs, mais tout le reste, Luc l'a inventé, et au nom de la corporation des romanciers, je dis respect. Donc, j'aime beaucoup ce ton-là. Alors, il commence le travail d'écrivain. Il reconnaît en Luc, par exemple, l'écrivain que lui-même est. Alors, il commente son travail en disant « Wow, bravo, là, ça, c'est bon. » Donc, il fait de l'analyse, il fait de l'histoire, il parle de sa vie. Ça fait un texte assez confus, peut-être.
Touffu,
mais extrêmement fluide. Moi, je me suis amusé beaucoup dans une langue très sinueuse, mais très agréable.
Le royaume d'Emmanuel Carrère, que vous soyez croyant ou non, disait-on dans la presse, précipitez-vous sur ce livre. Merci beaucoup, Luc Mercure.
Ça m'a fait plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Ça, c'est un petit peu la bande-annonce de l'émission. Voyez-vous, Luc, la semaine dernière, j'avais annoncé votre passage. J'avais même diffusé un extrait de ce livre aussi, Le Royaume tel que vous le lisez. Et puis, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Abla Faroud, qui est une auteure que je vais recevoir la semaine prochaine, dont nous avons plusieurs livres ici disponibles via le SQLA. Abla Faroud, une femme cosmopolite qui est née au Liban dans les années 40, qui est arrivée au Québec au début des années 50. Elle a fait des études de théâtre. On l'a même vue comme comédienne à un moment donné dès l'âge de 17 ans à la télévision de Radio-Canada. Elle a fait quelques allers-retours entre sa patrie d'origine, Paris et Montréal, avant de se fixer définitivement ici, à Montréal, en 73, où elle a entrepris une prolifique carrière de dramaturge. En 98, elle a publié un premier roman, largement inspiré par sa propre mère, que nous avons, qui s'intitule « Le bonheur à la queue glissante ». J'imagine qu'on en touchera un mot pendant l'entretien de la semaine prochaine, qui est le récit de Dounia, une immigrante libanaise qui n'a jamais appris ni à lire ni à écrire sa langue d'adoption. Et puis, il y a « Splendide solitude », où Abla Faroud aborde cette fois-ci les rivages de sa féminité, mais surtout les vrais rivages de la solitude lorsque elle est laissée, et ça ce sont ses mots, sans voix, par les départs consécutifs de son mari, musicien de génie, et de ses enfants eux-mêmes, musicien. Le ton est donné et je vous propose un extrait, justement, de cette immense solitude-là, telle que ça a été lu.
Mais la solitude. La solitude.
Je n'ai plus que mon corps, même lui, s'en va tranquillement, même lui. À armes égales, même un cheveu est plus fort que moi. S'il veut tomber, il tombe, je ne peux pas le retenir. Une dent, même une dent, une toute petite dent qui veut partir peut me faire passer une nuit blanche, même plusieurs, à me tordre de douleur. Même une dent est plus forte que moi, à armes égales. Tous ceux que j'ai voulu retenir sont partis, doucement ou brusquement, ou même poussés par moi. C'est pareil. Une déchirure, le tissu se fend. Douce ou violente, le tissu se fend. On m'a tranché 4 fois, concerto en 4 mouvements avec thème récurrent. Le père de mes enfants, puis l'aîné en âge de partir, puis le cadet, et puis la benjamine qui n'arrivait plus à respirer. Mon corps, chaque fois, marchait seul dans cette grande maison. Mon corps, chaque fois, plus ouvert, un peu plus ouvert, chaque fois, toutes les secousses.
Mais la solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude.
Il en sera beaucoup question de cette splendide solitude, titre d'un des livres d'Abla Faroud que, je vous rappelle, je vais recevoir la semaine prochaine, si tout va bien, comme je le dis toujours, à cette émission.
Des nouvelles et des livres.
Il y a eu récemment à Lancan, une vente à Lancan d'un cahier ayant appartenu à Néligan. Un cahier rare, un cahier exceptionnel, un carnet, rédigé de la main d'Émile Néligan, qui a été vendu aux enchères il y a quelques semaines et qui, malheureusement, j'essaie de faire, et là je vais commencer par un appel à tous, parce que je sais que la vente a eu lieu. J'ai fait des recherches autant comme autant sur Internet pour savoir qui finalement avait acheté ce carnet et je n'ai pas trouvé. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on aura des nouvelles, mais pour l'instant, si vous le savez, eh bien bravo, moi vraiment sur Internet, je n'ai rien trouvé de rien, si ce n'est le papier qui m'a donné envie de vous parler de ce carnet. Il y a une photo, et c'est vraiment un petit carnet avec des colonnes. Et c'est écrit tellement petit en pâte de mouche qu'on a même l'impression que c'est un imprimé. Mais ce n'est pas un imprimé, c'est l'écriture de Néligan. Et ce qu'on retrouve dans ce carnet-là, ce ne sont pas des poésies originales, mais bien des poésies qui l'auraient inspiré et qui le recopiaient religieusement, consciencieusement sur ce petit carnet. Mais l'écriture, mais je veux dire, c'est même pire que des pattes de mouche. Enfin, ce sont des têtes d'épingle. C'est vraiment complètement fou. Alors, bon, c'est évidemment un carnet important à cause de ses influences. On s'est dit que Bibliothèque et Archives nationales du Québec seraient certainement intéressés par cet achat-là. Ils ont dit non pour une raison toute simple, c'est qu'ils ont déjà 2 carnets qui étaient en possession de Néligan et sur lequel il avait également répertorié comme ça des textes écrits. Ils se sont dit, bon, on en a déjà 2, on n'en aura pas besoin de 3. Je voudrais juste vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a une vente aux enchères d'écrits de Néligan. En 2013, il y avait une copie réputée manuscrite du célébrissime Vaisseau d'or qui avait été offerte sur le site d'Ancan eBay. Je pense que vous vous souvenez de ça, et c'était 2 gars, un qui s'appelait Félix Brabant, l'autre c'était Nicolas Groux, voilà, qui s'était, entre guillemets, amusé à vendre ça, mais ce sont des gars qui sont fascinés, qui sont passionnés par Néligan, et Brabant qui dit, moi, le pire scénario, ce serait qu'un acheteur privé l'achète et le garde jalousement chez lui. C'est ce qui risque d'arriver. Alors, à suivre, parce que je ne sais pas où est rendu ce manuscrit-là. Ce que je sais, c'est que par le SQLA, vous avez accès à plusieurs livres sur Nelly Gant ou de Nelly Gant. Le secret Nelly Gant de Mario Hade, j'espère bien prononcer H-A-D-E. Il y a une biographie de Nelly Gant écrite par Paul Wyszynski, que je vous appelle W-Y-C-Z-Y-N-S-K-I. Vous avez aussi un autre livre sur Nelly Gant écrit par Réal Bertrand. Vous avez un recueil de poèmes avec des poèmes de Baudelaire, de Verlaine, de Rimbaud et de Nelly Gant. C'est également disponible. Et puis la poésie complète de Nelly Gant, celle qu'il a écrite entre 1896 et 1889. Nous avons tout cela. Et je vous propose maintenant un extrait de Nelly Gant, la comédie musicale, mais c'est un extrait de. C'est une version abrégée de Nelly Gant, livret de Michel Tremblay, musique d'André Gagnon. Faut-il le rappeler, ça a été enregistré en 2005 à la Place des Arts par Espace Musique, avant que ça s'appelle ici Radio-Canada. Et c'est un très très bel enregistrement. Il y avait des gens comme Kathleen Fortin, Richard Séguin, Pierre Flynn, Daniel Bélanger qui chantaient dans ce Nelly Gant-là. Et il y avait aussi Daniel Lavoie qui interprète ici Le Vaisseau d'or. C'est quelque chose, hein? Nelly Gant, telle que présentée par l'Orchestre symphonique de Montréal, direction Jacques Lacombe, il y a 9 ans maintenant, et le vaisseau d'or que vous venez d'entendre était interprété par Daniel Lavoie.
Quelques nouveautés en rafale.
Tiens, on va commencer avec une nouveauté que je qualifierais d'écologique. Ça s'appelle Nouvelle Verte et c'est précédé d'un poème d'Hubert Reeves. C'est signé Pierre Bordage. Les ouvrages de Pierre Bordage ont une orientation toujours humaniste, toujours axée sur la découverte de la spiritualité, la lutte contre le fanatisme ou encore le détournement du pouvoir politico-religieux, par exemple, au profit de quelques-uns. Alors, bien qu'issu de la science-fiction, voilà un homme, Pierre Bordage, qui travaille bien davantage sur ces personnages que sur la science et les technologies qu'il met en scène. C'est quelqu'un qui s'inspire des épopées et des mythologies du monde entier. Nouvelle Verte, précédée d'un poème de Hubert Reeves. Voici une critique de lecteur qui nous dit qu'il a trouvé ces textes très forts et souvent tristes. Peut-on parler de pessimisme, de réaliste? Il s'agit de 9 nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. Un extrait. C'est un dialogue entre le père et son fils. Le fils est un écolo, le père travaille dans le pétrole. Et le père qui lui dit « Gamin, ce pétrole qui pue, c'est lui qui paye ton pain ». Le père avait relevé la tête du journal et considérait durement son Benjamin. La mère soupira, c'était reparti pour une dispute entre le gosse, fou d'oiseau, qui passait ses dimanches à courir les plages de la mer du Nord avec son club de nature, et le père, ouvrier à la plateforme pétrochimique de Dunkerque, dont le travail était l'orgueil de toute sa vie. Et tes stylos et ta brosse à dents et tes jumelles pour bailler aux corneilles toute la vingtième journée, tu crois que ça pousse sur les arbres? Eh ben non, c'est du pétrole. Je sais, mais il n'y a pas de mecs qui tiennent. Le père était lancé. Le plastique, c'est notre boulot et le boulot, c'est notre vie. Et c'est surtout ta mort, lâcha Loïc, exaspéré. Je vous rappelle le titre de ce livre, Nouvelle Verte, précédé d'un poème de Hubert Reeves. L'écriture ou la vie de Georges Semprin, ou de Jorge Semprin, si vous préférez. Un petit résumé, il est déporté à Buchenwald, Georges Semprin. Il a été libéré par les troupes de Patton le 11 avril 1945. L'étudiant du lycée Henri IV, le lauréat du concours général de philosophie, le jeune poète qui connaît déjà tous les intellectuels parisiens, découvre à Buchenwald ce qui n'est pas donné à ceux qui n'ont pas connu les camps, c'est-à-dire vivre sa mort. Un temps, il va croire qu'on peut exorciser la mort par l'écriture, mais écrire renvoie à la mort. Alors pour s'arracher à ce cercle vicieux, il sera aidé par une femme, bien sûr, et peut-être par un objet très prosaïque, le parapluie de Bakounine conservé à Locarno. Il nous amène là dans une mémoire tourbillonnante, 1000 scènes, 1000 histoires qui rendent ce livre sur la mort extrêmement vivant. Critique de lecteur, mieux aurait-il valu mourir? D'une certaine façon, oui, cela aurait été plus simple. Et lorsqu'on lui demande de raconter son expérience des camps, Georges Semprin se heurte à l'indicible. Un extrait. Car la mort n'est pas une chose que nous aurions frôlée, côtoyée, dont nous aurions réchappé comme d'un accident dont on serait sorti indemne. Nous l'avons vécu, nous ne sommes pas des rescapés, mais des revenants. Ceci, bien sûr, n'est dissible qu'abstraitement, ou en passant, sans avoir l'air d'y toucher, ou en riant avec d'autres revenants. Car ce n'est pas crédible, ce n'est pas partageable, à peine compréhensible, puisque la mort est, pour la pensée rationnelle, le seul événement dont nous ne pourrons jamais faire l'expérience individuelle. L'écriture ou la vie de Georges Semprin. Chez la reine d'Alexandre McCabe, j'espère que je vous McCabe, je ne sais pas, c'est M-C-C-A-B-E. C'est un livre qui campe judicieusement son action dans l'arrière-pays québécois, les villages, les rangs, c'est le cadre de l'enfance. Nous sommes dans l'authentique royaume où la maison de la reine trône au cœur du paysage. Alexandre McCabe édifie le musée de la mémoire d'un petit-fils, jeune homme au début de la vingtaine, qui doit se faire à l'idée « une mort est une mort et on ne peut se soustraire » à tout ce qu'elle a de tragique. Un lecteur a critiqué ce livre en disant « Quelle belle écriture, quelle richesse de vocabulaire, quelle évocation imagée et vivante du fait nationaliste, des attaches aux origines, à la famille. On lit le bouquin en deux jours et on en garde des souvenirs vibrants pendant des semaines. » Il dit qu'il attend le prochain titre avec impatience. Une critique de la presse, c'est parce qu'il ne voulait pas que son grand-père meure une deuxième fois qu'Alexandre Mekabe a décidé d'écrire « Chez la reine ». Dans ce premier roman sur l'héritage et la transmission, il rend hommage à sa famille tout en se penchant sur l'histoire récente du Québec, du référendum de 1980 au milieu des années 2000. Un tout petit extrait, ils nous disent d'arrêter de vivre dans le passé, alors on finit par se taire, mais on n'a pas encore commencé à parler. On veut être sûr de ne pas se passer, de ne pas passer pour des ceintures fléchées, mais nos silences sont des clous de plus dans le cercueil du pays. Voilà, c'est là-dessus, sur ces quelques titres en rafale que je vais vous laisser. Je voudrais remercier mes invités aujourd'hui, Marina Orsini, Gérard Saint-Denis et Luc Mercure. Merci à mon compagnon Jean-Sébastien Laliberté, à mon compagnon professionnel. Et puis merci à vous d'être fidèlement des nôtres à chaque semaine. Parlez-en autour de vous, l'émission existe, la radio existe et c'est important. On est là pour vous et on travaille fort. À la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci beaucoup.